Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que tout se passe bien de votre côté, Marianne Paquette, qui vous accompagne avec grand plaisir pour les 30 prochaines minutes. L'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Eh bien, on connaît tous la sensation d'avoir un mot sur le bout de la langue, un trou de mémoire, oublier son mot de passe. Ça, c'est fatigant, ça m'arrive souvent. Oublier un mot de passe, oublier même un rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est normal. Oui, c'est un processus normal de vieillissement. En fait, 40 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont des pertes de mémoire, sans que ça soit nécessairement lié à une maladie dégénérative comme l'Alzheimer. Hein. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer notre mémoire. Bon, on peut penser qu'après une nuit blanche, là, on n'est pas nécessairement au top de notre mémoire, mais à l'inverse, une saine alimentation pourrait favoriser, pourrait avoir des impacts bénéfiques sur nos fonctions cérébrales. Et j'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Maryse Charron. Elle est nutritionniste et elle vient tout juste de faire paraître un livre sur les super aliments mémoire. Aussi vous dire, et vous l'aurez peut-être constaté, parce que peut-être vous êtes parent ou peut-être pas, juste par observation, on n'est pas parent. Hein. Ça arrive généralement lorsqu'on a un enfant et ça vient sans mode d'emploi. Ça s'apprend au fil des jours, peut-être au fil des nuits blanches, des pertes de patience, mais aussi des réussites, des fiertés et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Apprendre à être un parent d'enfants handicapés, ça non plus, ça ne s'apprend pas. Et j'ai l'impression que ces parents-là passent même par un petit détour, celui du deuil de l'enfant dit normal, mais aussi par un détour d'acceptation et de résilience. Il y a aussi une autre chose qui caractérise les parents d'enfants handicapés, en tout cas, du moins ceux que j'ai rencontrés, c'est cette crainte ou l'inquiétude de l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver avec mon enfant quand je ne serai plus là? Qui va s'en occuper? Qui va le comprendre? Qui va le stimuler? Parce que, malheureusement, les parents d'enfants handicapés ne sont pas éternels comme les autres parents. Il y a eu, mardi dernier, un véritable baume médiatique. C'est comme ça que je le dis, un baume médiatique. C'est cette grande nouvelle liée au lancement de la Fondation Véro et Louis. J'en parle avec sa marraine aujourd'hui, Guylaine Gay. Guylaine Gay, bonjour.
Allô, Marianne, ça va bien?
Oui, un grand, grand, grand plaisir de t'accueillir. Je le disais à tout le monde à l'équipe, je vous aime d'amour, Guylaine Gay, femme inspirante et qui a inspiré, en fait, cette création, il faut le dire, de la Fondation Véro et Louis, notamment peut-être avec la sortie en 2015 de Deux garçons à la mer.
2014, ça fait un an et demi maintenant seulement. C'est mon petit livre, il est tout nouveau, il est tout un petit bébé tout neuf. Donc, Deux garçons à la mer qui est sorti il y a un an et demi. Et Louis et Véro, bon, ça faisait longtemps qu'ils cherchaient une cause, hein, ils lisaient. Ils sont très sollicités aussi, hein, oui. Il faut le dire. Et Véro a lu mon livre « Deux garçons à la mer » et dans mon livre, au chapitre 20, il y a une toute petite phrase qui dit quelque chose comme « Je rêve d'une grande maison remplie d'amour et d'otis. Et est-ce qu'elle va tomber du ciel, cette maison, Maguilou? » Non, je sais que quelqu'un de très généreux lit en ce moment cette phrase.
Une riche héritière.
Une riche héritière lit cette phrase et va entendre ma requête. Et ma riche héritière, c'est la merveilleuse Véronique Cloutier et Louis. Donc, c'est extraordinaire que mon tout petit livre écrit sans prétention, vraiment avec mon cœur, ait atteint le cœur de Véro et Louis. Ça me touche profondément et je suis honorée vraiment de faire partie de cette belle aventure-là et que ce tout petit livre-là ait été l'étincelle d'un grand projet qui sera de de construire une maison, un milieu de vie, donc, pour les autistes de 21 ans et plus.
Oui. Vous avez écrit aussi à la toute fin, c'est l'une des dernières pages, « Je sais que ces mots que j'écris changeront ma vie ». Mais est-ce que vous saviez, Guylaine Gay, à quel point ça allait changer votre vie et celle de plein d'autres familles?
Non, absolument pas. Vraiment, j'ai écrit ça très humblement, comme on écrit un récit de vie. J'avais envie de mettre en lumière notre quotidien, qui n'est pas le quotidien de tout le monde. Donc, avec deux enfants autistes, mes fils Léo, qui a maintenant 15 ans, et Clovis, qui a 13 ans. Et non, je ne me doutais pas du tout de... Et c'est là que je dis et que je vous dis à vous, auditeurs, auditrices, hein, ne jamais sous-estimer la portée des mots, hein, ouais. Les demandes qu'on fait. Et là, c'est vraiment plus grand que moi, là, ce qui se passe en ce moment, évidemment, pour mes enfants, mais pour toutes les familles qui vivent avec l'autisme, hein, parce que aider un autiste, c'est aider une vingtaine de personnes autour, parce que cet enfant-là qui devient adulte est entouré d'une famille, est entouré d'intervenants. Donc, aider un autiste, c'est selon moi aider beaucoup de personnes. Oui. Donc, c'est merveilleux.
Ne pas sous-estimer le pouvoir des mots, ne pas sous-estimer aussi la puissance des rêves, parce qu'à la base, c'est un grand rêve. Pourquoi rêver d'une maison remplie d'autistes? Pourquoi ce besoin-là au cœur des familles qui ont un enfant autiste?
Bien, c'est qu'en ce moment, Marianne, il existe au Québec... Bien, il faut dire que les autistes sont scolarisés jusqu'à l'âge de 21 ans. Mm-hmm. Ensuite de ça, bien, ils sont laissés à eux-mêmes et à leur famille. Donc, on parle d'autistes adultes qui restent à la maison, donc qui vont perdre des acquis, qui ne seront plus stimulés comme ils l'étaient à l'école. Donc, déjà là, c'est triste. Ensuite, si on parle de tout ce qui est résidentiel, il existe en ce moment des ressources intermédiaires, familles d'accueil, familles de groupe, mais ce dont j'avais vraiment envie, ce n'est pas une ressource intermédiaire, c'était vraiment une solution plus définitive, c'est-à-dire que notre grand garçon ou notre grande fille arrive dans cette maison-là et va vivre une vie adulte heureuse, encadré et dans le bonheur et la joie. Mon rêve, c'était ça. C'était d'offrir cette quiétude d'esprit-là aussi aux parents, de dire, oui, il va y avoir une première maison qui va être construite. On espère qu'il y en aura d'autres aussi. Mais surtout, c'est de mettre en lumière la réalité des jeunes autistes qui, en ce moment, dans la structure sociale actuelle, sont abandonnés littéralement.
Ouais. Je sais qu'il est peut-être un peu tôt pour se prononcer là-dessus, mais à quoi ça pourrait ressembler une maison Véro et Louis et Guylaine, une maison de l'autisme?
Ah ben là, moi, c'est Véro qui l'a dit, elle voit grand, elle rêve grand. Ben moi, j'embarque là-dedans parce que j'ai pas tous les sous, mais j'ai tellement de bonne volonté, d'intention, puis moi, c'est pas un travail que je fais là. Moi, je le fais là, parce que c'est mon cœur qui m'a guidée là. Donc, cette maison-là, elle va être premièrement adaptée aux besoins des autistes. Hein. Il faut comprendre que les autistes ont souvent beaucoup de sensibilité sensorielle, donc la lumière, le son, etc., ont besoin d'endroits à eux aussi. Hein. C'est pas des gens qui jouent ensemble en général. Donc, toutes ces particularités-là vont être pris en compte pour les plans de cette maison-là. Évidemment, on rêve que ce soit un beau grand terrain à la campagne, qu'il y ait un potager, une petite fermette. Donc, un milieu de vie, pour moi, c'est important, le milieu de vie, parce que c'est, selon moi, ça équivaut au bonheur. Hein? Ouais. C'est de vivre une vie épanouissante, parce que nos enfants, quand ils sont adultes, c'est pas des moitiés de citoyens, c'est des citoyens à part entière qui ont droit à une vie heureuse et puis aussi en sécurité, parce qu'ils ont besoin d'encadrement. Et nous, le parent, tu sais, moi, quand mon fils Clovis, qui est non-verbal, qui ne sera jamais autonome, bien, quand Clovis va avoir 21 ans, j'ai aussi, moi, droit, en tant que parent, à le laisser aller. Hein. Il faut que lui apprenne aussi à vivre sa vie d'adulte. Et moi, je suis très enthousiaste. Et je sais que ça va être une maison remplie de bonheur. Et c'est sûr qu'il y aura des défis à relever parce que, bon, il existe en ce moment des projets, là, mais ce genre de projet-là, pour moi, c'est à l'infini. Là. Oui. Mais c'est surtout empreint de bonheur et d'amour et de structure et en respectant ce qu'ils sont. Oui. C'est ultimement ça qui, pour moi, est très important.
Parce que lorsque l'on parle d'autisme, on parle du spectre aussi. Il y a plein de types d'autisme,
oui, des niveaux de guérir. Voilà. Et en plus, ils ont chacun leur personnalité. Donc, il y a autant d'autisme que d'autisme.
Oui, ça va prendre des gens qui, je l'ai dit en introduction, et je trouvais ça important, qui comprendra mon enfant? Dans le cas de Clovis, vous avez carrément développé un vocabulaire avec lui plus qu'il n'est pas verbal. Donc, ça prendra aussi des professionnels qui pourront entrer dans cet univers.
Mais ça, j'ai bon espoir parce que moi, je donne énormément de conférences, oui, notamment pour des étudiants en éducation spécialisée. Et je leur fais entièrement confiance. Il y a même des programmes tout nouveaux dans les cégeps qui traite les troubles du spectre autistique. Donc, c'est devenu un programme, vous dire à quel point il y en a, puis il faut s'en occuper. Donc, maintenant que l'autisme est identifié, c'est beaucoup plus facile de trouver les ressources nécessaires pour bien s'en occuper, en tout cas.
Et de voir des gens comme Louis Morissette et Véronique Cloutier mettre la lumière sur l'autisme. Au-delà de la maison, au-delà de la fondation, juste que ces deux personnes-là en parle de handicap. Hein? On n'en parle pas tant que ça dans nos médias.
C'est pas très sexy, voilà, pour utiliser ce terme-là. Donc, et puis, il faut dire aussi que Véro et Louis n'ont pas eux-mêmes d'enfants autistes. Et ça, c'est d'autant plus touchant qu'ils aient envie de redonner à la communauté, de redonner à la société, parce qu'ils le disent eux-mêmes, ce sont des gens qui sont privilégiés, qui sont en santé, qui ont des enfants en santé. Donc, qu'ils aient choisi cette cause-là, évidemment, ça me touche profondément, mais ça me touche surtout parce que je pense que c'est un précédent. Ça va changer la façon que la société a de voir nos jeunes autistes. Ça leur donne une voix, ça les met en lumière. Et ça, pour moi, c'est inestimable. Comme on m'aurait dit il y a quelques semaines que j'allais devenir millionnaire, que j'aurais pas été plus contente que maintenant. C'est vous dire, Marianne, à quel point je suis heureuse. Moi, ça fait un an déjà que je sais ça, que cette fondation-là...
C'était tout secret, là.
On m'a demandé la confidentialité et moi, je suis quelqu'un de loyal. Je suis loyale et fiable, surtout. Donc, j'en ai pas parlé à personne. Mes parents le savaient même pas. Donc, mais maintenant, c'est sorti. Puis la journée de la conférence de presse, c'était une journée très émotive pour
moi. La plus belle journée de votre vie, vous avez dit.
Je l'ai dit. Ouais. Je le redis. C'était la plus belle journée de ma vie. Parce que oui, avoir des enfants, c'est une belle journée. Oui, se marier, c'est une belle journée.
Tout ce que vous avez fait,
mais
d'ailleurs.
Mais que quelqu'un me dise, Guylaine, on va s'occuper de tes fils, ne t'en fais pas. Ah ben ça, vraiment, c'est la plus belle journée de ma vie.
Ouais.
Et de faire ça en si belle et bonne compagnie avec des gens généreux et rigoureux.
Qui ont choisi aussi
ont
cette
choisi,
cause. On
ne
l'aura pas mis à
la
gorge. Là.
Moi, je ne suis pas fatiguant. Moi, je n'ai pas achalé personne avec ça. Et c'est vraiment un beau cadeau.
Guylaine, un homme, à un moment donné, m'a dit, c'est un professeur d'éducation spécialisée qui est lui-même papa d'un jeune homme qui vit avec la trisomie 21. Il m'avait dit que ce qui l'embêtait le plus dans son parcours de papa d'un enfant handicapé, c'est les gens qui lui disaient « Ah, une chance que c'est tombé sur toi, une chance que c'est tombé sur ta famille. Moi, j'aurais pas su quoi faire. » Vous n'avez pas voulu d'enfant, Guylaine.
Ben non.
Lorsque vous étiez enceinte de votre premier fils, Léo, votre grand-père, mort, vous a parlé en disant « Il y a plein d'âmes qui font la file et qui te choisiraient, qui voudraient te choisir comme mère. » Avez-vous l'impression que ça vous est arrivé parce que vous saviez quoi faire avec ça ou non, ça s'est développé, vous l'aviez appris?
Bien, évidemment, vous l'avez dit en introduction, ça ne vient pas avec un mode d'emploi. Être parent, c'est déjà pas simple. Être parent d'enfants à besoins particuliers, je sais qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui nous écoutent qui vivent ça aussi, hein, des enfants avec des cheminements atypiques, comme on dit. Bien, c'est vraiment au jour le jour. Mais moi, quand j'étais très, très jeune, je vous dirais là, vers 5, 6, 7, 8 ans, là, je savais que j'étais investie d'une grande mission. Mais je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus à ce moment-là. Mais j'ai encore ce même sentiment-là, mais c'est rempli d'amour. Mais je sais que je n'avais pas un destin comme les autres. Et puis, c'est ce qui arrive. Donc, moi, mes enfants, je les trouve merveilleux comme ils sont. À chaque soir, quand je couche mon plus jeune Clovis, bon, il parle pas, mais il répète des choses. On appelle ça de l'écholalie. Et chaque soir, depuis qu'il est très petit, et mes enfants parlent anglais. Je sais pas pourquoi, mais ils parlent juste anglais, presque. Donc, je dis à mon fils, Clovis, you are perfect. Et mon fils me répond en me regardant, just the way you are. Parce que moi, je leur ai appris qu'ils étaient parfaits comme ils sont. et non pas comme on voudrait qu'ils soient. Pour moi, c'est très important de respecter ce qu'ils sont, mm-hmm. parce qu'ils sont merveilleux.
Ouais.
Il faut le dire.
Quel sera votre rôle en tant que marraine de la Fondation Véro et Louis?
Bien, évidemment que je vais les appuyer. Je parle déjà beaucoup de la Fondation dans les médias sociaux. Je vais les appuyer notamment dans les levées de fonds. Je vais les accompagner parce que, évidemment, j'ai une expérience en autisme que peut-être Louis et Véro n'ont pas encore. Parce qu'ils vont vraiment... ils apprennent très, 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 très vite. C'est vraiment des bons élèves. Donc, je vais vraiment les soutenir. Je vais les accompagner, les aiguiller quand il le faudra. Mais je fais vraiment confiance à leur instinct. Louis et Véro, ce sont des gens intègres, ce sont des gens généreux, mais surtout, ce sont des gens sincères. Et je pense que notre union est très organique parce qu'on se ressemble à ce niveau-là et on a envie de changer le monde un cœur à la fois et puis une maison à la fois. Oui.
La Fondation sera financée, entre autres, bon, par des spectacles, oui. des Morissette. Par quel autre moyen aussi?
Bien là, il y a plein d'activités qui vont se mettre en branle, évidemment. On aura une première rencontre d'ici quelques semaines pour rétablir tout ça, pour dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'aller chercher. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on a vraiment envie de bâtir ça ensemble, hein, de dire aux gens... Moi, je dis toujours, quand je rencontre des gens à la fin d'une conférence, merci de participer à mon bonheur. Et j'ai vraiment envie que les gens participent à notre bonheur, même si les gens n'ont pas nécessairement un enfant autiste. Mais moi, j'ai envie de vivre dans une société inclusive qui s'occupe de tout le monde. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde pour... Selon moi, c'est bâtir un beau futur. C'est ce que je vois, c'est bâtir un avenir meilleur pour les enfants... Les enfants comme les miens, à vrai dire.
Oui. Donc, on peut aller fondationverolouis.com
oui.
pour donner à coût de 5 $, à coût de 10 $.
Il n'y a pas de petits dons, Marianne.
Et voilà. Juste de grandes réalisations. À quand peut-on espérer l'ouverture de la première maison?
Première maison prévue 2019-2020. Donc, je me peux plus de la première pelletée de temps, comme dans les films. Oui. Ma vie est un film et c'est un très beau film. Et je suis vraiment très, très, très heureuse. Évidemment pour moi, mais pour toutes les familles qui vivent l'incompréhension des autres, qui vivent le regard des autres, hein, d'avoir des gens qui disent « moi, j'ai envie d'appuyer ça », vraiment, c'est un cadeau qui est extraordinaire. Puis on va le faire vraiment tout le monde ensemble, un cœur à la fois.
On vous suivra de près, Guylaine Guy. Merci beaucoup pour votre passage, toujours apprécié.
Merci, Marianne.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Charon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste diététiste et co-auteur de ce livre « Super aliments mémoire » séparé chez Modus Vivendi. Mm-hmm. Et ce que l'on apprend en début de livre, Maryse, et ça nous rassure, c'est que les trous de mémoire, chercher à avoir un mot sur le bout de la langue, là, c'est normal, il ne faut pas paniquer.
Non, vraiment pas. On a tout ça, même 40, il y a 40% des personnes âgées de plus de 65 ans qui subissent des pertes de mémoire et c'est tout à fait comme un processus normal. Faut pas non plus paniquer avec ça. Là.
On apprend aussi qu'il y a peut-être des façons de vivre, des habitudes de vie qui ont des impacts défavorables ou favorables sur notre mémoire et entre autres, l'alimentation peut favoriser nos fonctions cérébrales. De quelle façon?
Si on regarde dans le livre, on a divisé le livre vraiment trois grandes catégories. On a, par exemple, 10 conseils. Évidemment, c'est pas juste l'alimentation, c'est un ensemble de choses, oui, dont les habitudes de vie. Mais l'alimentation a vraiment un effet sur la mémoire. Plus on mange mieux, plus on mange, par exemple, des aliments qui sont antioxydants, des légumes, des fruits. Je pense que le discours que les gens connaissent aussi, oui, va vraiment aider à la mémoire. Faire en sorte aussi de ne pas sauter de repas, de ne pas manquer de glucides dans son cerveau. Des fois, les gens vont suivre des régimes trop drastiques. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est à éviter parce que le cerveau a besoin de carburant qui est vraiment retrouvé dans les glucides. Donc, c'est très important ça aussi. D'aller chercher par exemple, boire suffisamment d'eau va, mm-hmm, aussi aider à faire en sorte là, qu'on est moins déshydraté, donc on perd moins la mémoire de ce côté-là. L'alcool a un effet aussi. Oui. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit faire en sorte de stimuler aussi notre cerveau. Dormir bien, ce sont les habitudes de vie et habitudes alimentaires aussi. Mais les glucides, les gens qui manquent des bons glucides, ça peut nuire. Les bons gras, parce que notre cerveau est composé de bons gras aussi. Donc, d'aller chercher une fois par semaine du poisson, idéalement, on dit trois, mais une fois par semaine, ça peut vraiment aussi aider. On parle de la maladie d'Alzheimer. Juste dans certaines études, on a trouvé des données qui disent qu'une fois par semaine du poisson peut réduire de 60% la maladie, oh, d'Alzheimer. C'est pas négligeable. Donc, c'est des choses qui sont à tenir compte là, dans nos habitudes alimentaires et aussi de vie.
Oui, et je trouve que c'est très important que vous rappeliez ce fait parce qu'on peut manger du poisson tous les jours. Si on se couche trop tard et on manque de sommeil, à un moment donné, tout ça s'annule.
Oui, bien, évidemment, il faut tenir compte, chaque personne est individuelle, a ses caractéristiques, il y a la génétique qu'il faut tenir compte aussi chez chaque personne, mais il y a des choses qui peuvent justement influencer un autre comportement, comme il y en a d'autres qui vont tellement faire attention, puis ils vont oui, avoir la maladie d'Alzheimer, puis d'autres ne feront pas attention, puis ils n'ont rien toute leur vie, mais on met toutes les chances de son côté en ayant des bonnes habitudes de vie. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a 10 consignes dans notre livre,
oui,
qu'on invite les gens là, à regarder. On a sorti aussi les 20 aliments qu'on pense, toujours en fonction de la littérature, qui a sorti quand même des vertus intéressantes. Amélioration de la capacité de mémorisation, prévention de la maladie d'Alzheimer, maintien, mm-hmm, des facultés cognitives. Donc, il y a beaucoup d'informations en lien avec certains aliments. Nous, on en a sorti 20. On s'est basé quand même sur certains nutriments aussi qui apportaient du, oui, bien-être au niveau du cerveau.
La vitamine B, entre autres choses.
Oui.
Et les oméga.
Oui, la vitamine B, les oméga 3, les phytonutriments qu'on peut retrouver dans dans certains aliments comme les petits fruits, comme les bleuets, les flavonoïdes, il y a plein d'informations, plein de nutriments qui vont aider, essentiels au bon fonctionnement du cerveau, à la transmission nerveuse aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est ce qui est intéressant dans le livre, c'est vraiment, on a sorti des vertus en lien avec les aliments. Il n'y a pas un aliment là, qui va guérir, mais c'est un ensemble. Si on ajoute un petit peu de temps aux gens, ajouter de la variété. Donc, si les gens, par exemple, se procurent le livre et voient plein d'aliments, il y en a une vingtaine, donc ils se disent « Ah, moi, j'en mangeais pas souvent de ça », bien, c'est comme un avantage de le rajouter dans leur alimentation.
Parmi ces aliments, bon, il y a des aliments que l'on voit peut-être plus souvent, comme le bleuet, comme l'avoine, oui, par exemple. Ça fait, oui, partie du régime alimentaire de bien des gens. Parfois, des aliments peut-être moins connus, comme l'edamame, par exemple, qu'on connaît peut-être un petit peu moins dans notre régime quotidien.
Oui, les edamame, c'est quand même une fève de soya qui c'est un soya vert qui est d'origine d'Asie. C'est évidemment un haricot très intéressant. C'est une légumineuse. C'est une des plus riches en protéines. On parle de l'équivalent de peut-être 35 grammes par tasse, ce qui est quand même pas négligeable. Et ça contient de la choline aussi. La choline, c'est un nutriment qui a une importance au niveau de la transmission nerveuse. Et ça a un effet sur la diminution du déclin cognitif. Quand on a fait le livre sur mémoire, on a tenu compte de tous les autres aussi, les autres choses, là, facultés cognitives, la mémorisation. Donc, c'est pas juste dire, on n'a pas juste parlé de mémoire, mais aussi du cerveau en général.
Oui.
Et les edamame, c'est un aliment à vraiment ajouter dans son alimentation. Évidemment, ça provient du soya. Donc, les gens qui sont allergiques au soya ne peuvent pas, mais la majorité des gens, c'est une des légumineuses les plus intéressantes là, qu'on peut retrouver. Donc, les gens disent « Ah, mon doux, c'est quoi des edamame? » Mais dans notre livre, on a aussi des recettes super intéressantes avec des photos alléchantes. Donc, les gens peuvent aussi mettre en pratique la théorie qu'on retrouve dans le livre. Donc,
est-ce que vous proposez dans ce livre, Marie Charron, ça peut très bien convenir à des gens qui ont un régime végétarien?
Moi, j'encourage beaucoup, d'ailleurs, des études de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. On peut renverser des maladies avec le végétarisme et le végétalisme. Mm-hmm. Le végétalisme, on va encore plus loin, parce que là, il n'y a aucune source d'origine animale. Plus on mange de végétaux, plus on va être en santé.
Oui, puis justement, dans ces 20 aliments, il y a beaucoup de végétaux, patates douces, épinards, choux frisés, choux fleurs. Donc, vraiment, vous vous inspirez de ces bons légumes qu'on aime et qu'on doit davantage inclure dans nos assiettes. J'aime aussi, Marie Charron, que dans ce livre, vous vous attaquiez à certains mythes, comme par exemple les œufs, parce que les œufs sont parmi les aliments privilégiés. Et vous dites, il y a pas de risque, là, on peut manger un œuf, deux œufs par jour, pas de problème.
Il n'y a aucun problème. Les œufs, surtout à cause de la choline, on a dit qu'il peut avoir des effets là, au niveau de la santé du cerveau. Donc, nous, il y a aucun problème. C'est certain que quelqu'un qui va être végétalien, donc ne consomme pas d'œufs, va aller chercher quand même d'autres nutriments dans du végétaux. Mais quelqu'un qui va, par exemple, manger deux œufs, j'ai pas de problème avec ça, à moins d'avoir ce qu'on appelle la maladie d'hypercholestérolémie familiale. Mm-hmm. À ce moment-là, il faut peut-être plus restreindre parce que le corps n'élimine pas naturellement le trop-plein de cholestérol.
Oui. En terminant, on parle beaucoup des aliments privilégiés pour aider nos fonctions cérébrales, pour prévenir le déclin cognitif, la démence, l'Alzheimer. Vous parlez de tout ça dans le livre. Est-ce qu'il y aurait des aliments à éviter, peut-être même à éliminer là, de notre régime de vie, régime alimentaire, pour favoriser notre santé sur ces points de vue-là?
Je dirais que oui, les aliments qui sont les plus à éviter, c'est les aliments, on ne peut pas dire les éliminer, parce que c'est comme impossible, ouais. Là, on ne peut pas viser l'orthorexie, on ne veut pas encourager un trouble alimentaire, ouais. Mais les aliments qui sont riches en gras saturés, en trop grande quantité, tu sais, on mange un peu de beurre, pas de problème. Mais si on met du beurre partout, on mange le gras des viandes, on prend des pâtisseries où c'est cuisiné commercialement avec des gras trans, qu'on voit de moins en moins, mais qu'on en voit encore beaucoup. Les aliments qui sont raffinés aussi.
Trop transformés, voilà.
Trop transformés. Les additifs alimentaires aussi qu'on peut retrouver dans les aliments, c'est des choses qui n'aident pas non plus à la mémoire et qui n'aident pas là, un bon fonctionnement du cerveau.
Et sinon, on se procure votre livre « Super aliments, mémoire pour bien entretenir ses facultés cérébrales », c'est chez Modus Vivendi, écrit avec Élise Cerquera, qui est votre co-auteur. Marie Charron, vous êtes nutritionniste diététiste. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci.
Au revoir. Jean-Sébastien Laliberté, qui a mangé des edamame pour dîner. C'est pour ça qu'il pète la santé. Marianne Paquette au micro, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Bye-bye.